Chapitre 3. La torpille. Et il suivit le joli couple, le devança, l'examina d'un œil perspicace et revint, à la grande satisfaction de tous ses envieux, intéressés à savoir d'où provenait le changement de fortune de Lucien. « Mes amis, vous connaissez de longue main la bonne fortune du sire de Rubempré, » leur dit Bixiou. « C'est l'ancien rat de Deslupeaux. » L'une des perversités maintenant oubliées, mais en usage au commencement de ce siècle, était le luxe des rats. Un rat, mot déjà vieilli, s'appliquait à une enfant de 10 à 11 ans, comparse à quelques théâtres, surtout à l'opéra, que les débauchés formaient pour le vice et l'infamie. Un rat était une espèce de page infernal, un gamin femelle à qui se pardonnaient les bons tours. Le rat pouvait tout prendre, il fallait s'en défier comme d'un animal dangereux. Il introduisait dans la vie un élément de gaieté, comme jadis les scapins, les sganarelles et les frontins dans l'ancienne comédie. Un rat était trop cher. Il ne rapportait ni honneur, ni profit, ni plaisir. La mode des rats passa si bien qu'aujourd'hui, peu de personnes savaient ce détail intime de la vie élégante avant la Restauration, jusqu'au moment où quelques écrivains se sont emparés du rat comme d'un sujet neuf. Comment Lucien, après avoir eu Coralie tuée sous lui, nous ravirait la torpille ? Dit Blondet. En entendant ce nom, le masque aux formes athlétiques laissa échapper un mouvement qui, bien que concentré, fut surpris par Rastignac. « Ce n'est pas possible, » répondit Finot. « La torpille n'a pas un liard à donner. Elle a emprunté, m'a dit Nathan, 1000 francs à Florine. »« Oh, messieurs, messieurs !» dit Rastignac en essayant de défendre Lucien contre de si odieuses imputations. « Eh bien !» s'écria Vernou. « L'ancien entretenu de Coralie est-il donc si bégueule ?»« Oh, ces 1000 francs-là, » dit Bixiou, « me prouvent que notre ami Lucien vit avec la torpille. » Quelle perte irréparable fait l'élite de la littérature, de la science, de l'art et de la politique, dit Blondet. La torpille est la seule fille de joie en qui s'est rencontrée l'étoffe d'une belle courtisane. L'instruction ne l'avait pas gâtée, elle ne sait ni lire ni écrire. Elle nous aurait compris. Nous aurions doté notre époque d'une de ces magnifiques figures aspasiennes sans lesquelles il n'y a pas de grand siècle. Voyez comme la Dubarry va bien au XVIIIe siècle, Ninon de l'Enclos au XVIIe, Marion de l'Orme au XVIe, Impéria au XVe, Flora à la République romaine, qu'elle fit son héritière, et qui put payer la dette publique avec cette succession. Que serait Horace sans Lydie, Tibulle sans Délie, Catulle sans Lesbie, Properce sans Cinti, Démétrius sans l'ami qui fait aujourd'hui sa gloire ? Blondet, parlant de Démétrius dans le foyer de l'opéra, me semble un peu trop débat, dit Bixiou à l'oreille de son voisin. Et sans toutes ces reines, que serait l'empire des Césars, disait toujours Blondet. Laïs, Rhodope sont la Grèce et l'Égypte. Toutes sont d'ailleurs la poésie des siècles où elles ont vécu. Cette poésie qui manque à Napoléon, car la veuve de sa grande armée est une plaisanterie de caserne, n'a pas manqué à la Révolution qui a eu Madame Tallien. Maintenant, en France, où c'est à qui trônera, certes, il y a un trône vacant. À nous tous, nous pouvions faire une reine. Moi, j'aurais donné une tante à la torpille, car sa mère est trop authentiquement morte au champ du déshonneur. Du Tillet lui aurait payé un hôtel, Lousteau une voiture, Rastignac des laquais, Deslupeaux un cuisinier, Finot des chapeaux. Finot ne put réprimer un mouvement en recevant cet épigramme à bout portant. Vernou lui aurait fait des réclames, Bixiou lui aurait fait des mots. L'aristocratie serait venue s'amuser chez notre Ninon, où nous aurions appelé les artistes sous peine d'articles mortifères. Ninon II aurait été magnifique d'impertinence, écrasante de luxe. Elle aurait eu des opinions, on aurait lu chez elle un chef-d'œuvre dramatique défendu, on l'aurait au besoin fait faire exprès. Elle n'aurait pas été libérale, une courtisane est essentiellement monarchique. Ah, quelle perte ! Elle devait embrasser tout son siècle, elle aime avec un petit jeune homme. Lucien en fera quelques chiens de chasse. Aucune des puissances femelles que tu nommes n'a barboté dans la rue, dit Finot, et ce joli rat a roulé dans la fange. Comme la graine d'un lys en son terreau, reprit Vernou. Elle s'y est embellie, elle y a fleuri. De là vient sa supériorité. Ne faut-il pas avoir tout connu pour créer le rire et la joie qui tiennent à tout ?»«
Il a raison, dit Lousteau, qui jusqu'alors avait observé sans parler. La torpille sait rire et faire rire. Cette science des grands auteurs et des grands acteurs appartient à ceux qui ont pénétré toutes les profondeurs sociales. À 18 ans, cette fille a déjà connu la plus haute opulence, la plus basse misère, les hommes à tous les étages. Elle tient comme une baguette magique avec laquelle elle déchaîne les appétits brutaux, si violemment comprimés chez les hommes qui ont encore du cœur en s'occupant de politique ou de science, de littérature ou d'art. Il n'y a pas de femme dans Paris qui puisse dire comme elle à l'animal « Sors !» et l'animal quitte sa loge et il se roule dans les excès. Elle vous met à table jusqu'au menton, elle vous aide à boire, à fumer. Enfin, cette femme est le sel chanté par Rabelais et qui, jeté sur la matière, l'anime et l'élève jusqu'aux merveilleuses régions de l'art. Sa robe déploie des magnificences inouïes, ses doigts laissent tomber à temps leurs pierreries, comme sa bouche les sourires. Elle donne à toute chose l'esprit de la circonstance. Son jargon pétille de traits piquants. Elle a le secret des onomatopées les mieux colorées et les plus colorantes. Elle... Tu perds 100 sous de feuilleton, dit Bixiou en interrompant Lousteau. La torpille est infiniment mieux que tout cela. Vous avez tous été plus ou moins ses amants. Nul de vous ne peut dire qu'elle a été sa maîtresse. Elle peut toujours vous avoir, vous ne l'aurez jamais. Vous forcez sa porte, vous avez un service à lui demander. Oh, elle est plus généreuse qu'un chef de brigand qui fait bien ses affaires et plus dévouée que le meilleur camarade de collège, dit Blondet. On peut lui confier sa bourse et son secret. Mais ce qui me la faisait élire pour reine, c'est son indifférence bourbonienne pour le favori tombé. Elle est comme sa mère, beaucoup trop chère, dit Delupeau. La belle Hollandaise aurait avalé les revenus de l'archevêque de Tolède, elle a mangé deux notaires. Et nourri Maxime de Trailles quand il était page, dit Bixiou. La torpille est trop chère, comme Raphaël, comme Carême, comme Taglioni, comme Laurence, comme Boulle, comme tous les artistes de génie étaient trop chers, dit Blondet. Jamais Esther n'a eu cette apparence de femme comme il faut, dit alors Rastignac en montrant le masque à qui Lucien donnait le bras. Je parie pour Madame de Sérisy.
Il n'y a pas de doute, reprit du Châtelet, et la fortune de Monsieur de Rubempré s'explique.
Ah, l'Église sait choisir ses lévites. Quel joli secrétaire d'ambassade il fera, dit Delupeau.
D'autant plus, reprit Rastignac, que Lucien est un homme de talent. Ces messieurs n'ont eu plus d'une preuve, ajouta-t-il en regardant Blondet, Finot et Lousteau.
Oui, le gars est taillé pour aller loin, dit Lousteau qui crevait de jalousie, d'autant plus qu'il a ce que nous nommons de l'indépendance dans les idées.
C'est toi qui l'as formé, dit Vernou.
Eh bien, répliqua Bixiou en regardant Delupeau, j'en appelle au souvenir de monsieur le secrétaire général et maître des requêtes. Ce masque et la torpille, je gage un souper.
Je tiens le pari, dit Châtelet, intéressé à savoir la vérité.
Allons, Delupeau, dit Finot, voyez à reconnaître les oreilles de votre ancien rat.
Il n'y a pas besoin de commettre un crime de lèse-masque, reprit Bixiou. La torpille et Lucien vont revenir jusqu'à nous en remontant le foyer. Je m'engage alors à vous prouver que c'est elle.
Il est donc revenu sur l'eau, notre ami Lucien, dit Nathan qui se joignit au groupe. Je le croyais retourné dans l'Angoumois pour le reste de ses jours. A-t-il découvert quelque secret contre les Anglais ?
Il a fait ce que tu ne feras pas de sitôt, répondit Rastignac. Il a tout payé.
Le gros masque hocha la tête en signe d'assentiment.
En se rangeant à son âge, un homme se dérange bien, il n'a plus d'audace, il devient rentier, reprit Nathan.
Oh, celui-là sera toujours grand seigneur, et il y aura toujours en lui une hauteur d'idées qui le mettra au-dessus de bien des hommes soi-disant supérieurs, répondit Rastignac.
En ce moment, journalistes, dandys, oisifs, tous examinés comme des maquignons examinent un cheval à vendre, le délicieux objet de leur pari. Ces juges, vieillis dans la connaissance des dépravations parisiennes, tous d'un esprit supérieur et chacun à des titres différents, également corrompus, également corrupteurs, tous voués à des ambitions effrénées, habitués à tout supposer, à tout deviner, avaient les yeux ardemment fixés sur une femme masquée
une femme qui ne pouvait être déchiffrée que par eux. Eux et quelques habitués du bal de l'opéra savaient seuls reconnaître, sous le long linceul du domino noir, sous le capuchon, sous le collet tombant qui rendait les femmes méconnaissables, la rondeur des formes, les particularités du maintien et de la démarche, le mouvement de la taille, le port de la tête, les choses les moins saisissables aux yeux vulgaires et les plus faciles à voir pour eux. Malgré cette enveloppe informe, ils purent donc reconnaître le plus émouvant des spectacles, celui que présente à l'œil une femme animée par un véritable amour. Que ce fût la Torpille, la Duchesse de Maufrigneuse ou Madame de Sérisy, le dernier ou le premier échelon de l'échelle sociale, cette créature était une admirable création, l'éclair des rêves heureux. Ces vieux jeunes gens, aussi bien que ces jeunes vieillards, éprouvèrent une sensation si vive qu'ils envièrent à Lucien le privilège sublime de cette métamorphose de la femme en déesse. Le masque était là comme s'il eût été seul avec Lucien. Il n'y avait plus pour cette femme 10 000 personnes, une atmosphère lourde et pleine de poussière. Non, elle était sous la voûte céleste des amours, comme les madones de Raphaël sont sous leur ovale filet d'or. Elle ne sentait point les coudoiements. La flamme de son regard partait par les deux trous du masque et se ralliait aux yeux de Lucien. Enfin, le frémissement de son corps semblait avoir pour principe le mouvement même de son ami. D'où vient cette flamme qui rayonne autour d'une femme amoureuse et qui la signale entre toutes? D'où vient cette légèreté de sylphide qui semble changer les lois de la pesanteur? Est-ce l'âme qui s'échappe? Le bonheur a-t-il des vertus physiques? L'ingénuité d'une vierge, les grâces de l'enfance, se trahissaient sous le domino. Quoique séparés et marchands, ces deux êtres ressemblaient à ces groupes de flore et zéphyr, savamment enlacés par les plus habiles statuaires, mais c'était plus que de la sculpture le plus grand des arts. Lucien et son joli domino rappelaient ces anges occupés de fleurs ou d'oiseaux, et que le pinceau de Giambellini a mis sous les images de la virginité mère. Lucien et cette femme appartenaient à la fantaisie qui est au-dessus de l'art comme la cause est au-dessus de l'effet. Quand cette femme qui oubliait tout fut à un pas du groupe, Bixio cria « Esther !» L'infortunée tourna vivement la tête comme une personne qui s'entend appeler, reconnut le malicieux personnage et baissa la tête comme un agonisant qui a rendu le dernier soupir. Un rire strident partit et le groupe fondit au milieu de la foule comme une troupe de mulots effrayés qui, du bord d'un chemin, rentrent dans leur trou. Rastignac seul ne s'en alla pas plus loin qu'il ne le devait pour ne pas avoir l'air de fuir les regards étincelants de Lucien. Il put admirer deux douleurs également profondes, quoique voilées. D'abord la pauvre Torpille, abattue comme par un coup de foudre, puis le masque incompréhensible, le seul du groupe qui fut resté. Esther dit un mot à l'oreille de Lucien au moment où ses genoux fléchirent, et Lucien disparut avec elle en la soutenant. Rastignac suivit du regard ce joli couple en demeurant abîmé dans ses réflexions. « D'où lui vient ce nom de Torpille ?» lui dit une voix sombre qui l'atteignit aux entrailles, car elle n'était plus déguisée. « C'est bien lui qui s'est encore échappé, » dit Rastignac à part. « Tais-toi ou je t'égorge, » répondit le masque en prenant une autre voix. « Je suis content de toi, tu as tenu ta parole, aussi as-tu plus d'un bras à ton service. Sois désormais muet comme la tombe. Et avant de te taire, réponds à ma demande. Eh bien, cette fille est si attrayante qu'elle aurait engourdi l'empereur Napoléon et qu'elle engourdirait quelqu'un de plus difficile à séduire. Toi, répondit Rastignac en s'éloignant. Un instant, dit le masque, je vais te montrer que tu dois ne m'avoir jamais vu nulle part. L'homme se démasqua. Rastignac hésita pendant un moment en ne trouvant rien du hideux personnage qu'il avait jadis connu dans la maison Vauquer. « Le diable vous a permis de tout changer en vous, moins vos yeux qu'on ne saurait oublier, » lui dit-il. La main de fer lui serra le bras pour lui recommander un silence éternel. À 3 heures du matin, Deslupeaux et Finot trouvèrent l'élégant Rastignac à la même place, appuyé sur la colonne où l'avait laissé le terrible masque. Rastignac s'était confessé à lui-même. Il avait été le prêtre et le pénitent, le juge et l'accusé. Il se laissa emmener à déjeuner et revint chez lui parfaitement gris, mais taciturne.